Laudetur Jesus Christus.
Désinfection dans les écoles, les églises ou encore les rames de métro, des tests de dépistage massifs, la Corée du Sud frappée de plein souet par l'épidémie de Covid-19 redouble d'efforts ce matin pour contenir la propagation du virus. Nous irons à Séoul dans un instant. Un sommet en dépit de l'épidémie de coronavirus, l'Italie a accueilli hier à Naples le président français pour relancer les relations franco-italiennes. Emmanuel Macron qui devrait recevoir Asia Bibi ce vendredi à l'Elysée. 33 soldats turcs tués dans des frappes du régime syrien dans la province d'Idlib. Ankara a répliqué cette nuit. L'ONU craint une escalade. La CEDEAO annule une mission des chefs d'État en Guinée. Il n'y aura pas de discussion avec le président Condé à propos du référendum constitutionnel de dimanche. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et puis enfin dans notre dossier, nous revenons sur les émeutes qui ont opposé ces derniers jours. Des extrémistes hindous et musulmans, on parle de 34 morts et 330 blessés.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. La péninsule coréenne à l'heure du coronavirus avec 256 nouveaux cas annoncés ce matin. Le nombre de malades a franchi la barre des 2000 en Corée du Sud, le pays le plus touché après la Chine. 90% d'entre eux ont été enregistrés à Daegu, la quatrième ville du pays. Une secte chrétienne est particulièrement touchée. 275 000 de ses membres ont commencé à être testés. À cause du coronavirus, les mégastars de la K-pop, les TBS, ont annoncé l'annulation ce matin de concerts géants prévus en avril à Séoul. Déjà, les compétitions de football ou les mondiaux de tennis avaient été annulés. À Séoul, la correspondance de Louis Paligiano.
Le coronavirus poursuit sa propagation en Corée du Sud, deuxième pays le plus touché par la maladie hautement contagieuse après la Chine. Les autorités sanitaires ont annoncé 256 nouveaux cas ce matin, portant le bilan à 2022 patients infectés. Parmi les mesures de prévention déployées, la distribution quotidienne de 3,5 millions de masques de protection dans les pharmacies, les bureaux de poste et d'autres établissements publics. Une nouvelle méthode de dépistage a également été mise en place à travers le pays. Des centres de tests au volant qui permettent aux automobilistes souffrant de symptômes suspects de se soumettre à un test de dépistage de manière simple et rapide depuis leur voiture. Toutes les crèches du pays restent portes closes jusqu'à mercredi prochain dans le cadre des efforts du gouvernement visant à endiguer la progression du Covid-19 parmi les enfants. Dimanche, Séoul a annoncé que toutes les écoles primaires et secondaires reporteraient d'une semaine leur rentrée scolaire qui a lieu en mars en Corée du Sud. Les universités ont également été invitées à reporter leur rentrée de 4 semaines. Des mesures exceptionnelles alors que le pays connaît un nouveau pic de contamination. À Séoul, Louis Paligiano pour Radio Vatican.
Et en Corée du Nord, pays voisin, la frontière fermée, un arsenal de mesures aurait été prises. Le pays a notamment reporté la rentrée scolaire. Pour aider la Corée du Nord à lutter contre l'épidémie de coronavirus, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déclaré cette nuit prêt à adopter des exemptions humanitaires à ces lourdes sanctions économiques contre Pyongyang. Plusieurs personnalités de premier plan contaminées en Iran après le vice-ministre de la Santé, la vice-présidente chargée des femmes et de la famille ainsi que le président de la Commission de la Sécurité nationale et des Affaires étrangères au Parlement iranien ont eux aussi contracté le virus. Selon les médias iraniens, la maladie a emporté hier le théologien Hadi Khoroshabi, le premier ambassadeur de la République islamique au Vatican. Si rien n'est fait, le risque d'escalade augmente d'heure en heure. Selon l'ONU, on ne parle pas de coronavirus, mais des affrontements entre les Turcs et le régime de Damas soutenu par Moscou dans le nord-ouest syrien. Hier, 33 soldats turcs auraient été tués dans des frappes aériennes du régime de Bachar el-Assad. Ankara a aussitôt riposté, en tout cas en bombardant des positions de Damas dans la province d'Idlib. Le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, a convoqué ce matin un conseil de sécurité extraordinaire à Ankara. 5 mois de manifestations et les divisions des politiques s'affichent de nouveau au grand jour en Irak. En dépit de multiples réunions entre groupes parlementaires, en présence même du premier ministre nommé, le Parlement a dû reporter à demain le vote de confiance au gouvernement. Anne-Sophie Lemoff.
Le blocage politique se poursuit en Irak. Faute de quorum au Parlement ce jeudi, le vote de confiance au gouvernement du premier ministre désigné Mohamed Alaoui a été reporté à samedi, au risque d'aggraver la crise politique qui sévit dans le pays. Un vote de confiance qui se fera ministre par ministre. Point d'achoppement des négociations au sein d'une classe politique fortement divisée, la désignation de ministres indépendants exigée par les manifestants qui, depuis octobre, réclament à cor et à cri une refonte totale de la classe politique jugée corrompue. Mohamed Alaoui avait un mois pour former son nouveau gouvernement. Un gouvernement provisoire destiné à conduire le pays vers des élections anticipées. Des élections qu'il dit vouloir libérer de toute influence liée aux questions d'argent, d'armes ou encore d'interférences étrangères. Le refus d'Alaoui de choisir à la tête des ministères des hommes désignés par les partis inquiète fortement Kurdes et Sunnites qui craignent de ne pas être représentés, contrairement au bloc majoritairement chiite qui le soutient. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
À l'Irak, où le gouvernement a décidé de fermer jusqu'au 7 mars prochain les écoles, universités, cinémas et cafés en raison du Covid-19. Jeudi, un premier cas a été recensé à Bagdad. Signe de l'importance qu'il accorde à l'amitié franco-italienne en pleine crise du coronavirus qui a infecté plus de 300 personnes en Italie, le président français s'est rendu à Naples hier accompagné de 11 ministres, tous accueillis par le président du Conseil italien. Après une période de tension entre les deux voisins, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ont voulu renouer les liens entre les deux pays pour redonner un poids en Europe au couple franco-italien. Blandine Hugonnet.
Ce sommet est celui de la relance. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a salué une après-midi d'échange avec le président du Conseil italien à Naples. Plusieurs heures de travail entre 11 ministres français et 12 italiens pour présenter à la fin de la journée une sorte de pacte d'amitié renouvelé entre l'Italie et la France. Renouvelé car le dernier sommet date d'il y a un peu plus de 2 ans, interrompu par des frictions entre Paris et le gouvernement de Rome, mené alors par le leader d'extrême droite Matteo Salvini et le mouvement anti-système 5 étoiles. Les relations reprennent donc désormais, avec pour le volet international une recherche de convergence sur le conflit en Libye, mais aussi des alliances économiques pour former la première coopération européenne dans le secteur des constructions navales militaires. Mais le couple franco-italien compte surtout peser dans l'Union européenne pour une Europe plus solidaire, plus sûre, plus sociale et plus forte, a dit Giuseppe Conte. Sur le dossier migratoire, le chef du gouvernement italien a appelé à faire un effort sur la répartition et le rapatriement des personnes qui continuent de débarquer en Italie. Même discours sur le climat pour porter ensemble à Bruxelles un Green Deal, a affirmé Emmanuel Macron. Une nouvelle amitié franco-italienne qui doit se concrétiser dans les mois à venir sous le nom de traité du Quirinal. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
À Paris, ce vendredi, le président Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée Asia Bibi qui souhaite obtenir l'asile en France. Condamnée à mort pour blasphème en 2010 dans son pays, la chrétienne pakistanaise avait été acquittée 8 ans plus tard avant de trouver refuge, on le sait, au Canada. La CEDEAO n'est pas la bienvenue en Guinée. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devait envoyer une mission de chef d'État sur place ce vendredi pour discuter avec le président Alpha Condé du référendum constitutionnel prévu ce dimanche. Mais le dirigeant guinéen n'a pas souhaité la recevoir. Les précisions de Manuela Figi.
Cette mission de bonne volonté, comme le précise la CEDEAO, devait être pilotée par les chefs d'État du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso et du Ghana, et son objectif était de trouver un compromis avec les autorités guinéennes sur le référendum de dimanche. Mission annulée donc, et l'on apprend dans le même temps que la CEDEAO n'enverra pas d'observateurs pour le scrutin, compte tenu de la situation sur le terrain qui n'est pas sans risque. Car de fait, la double élection de dimanche s'annonce pour le moins tendue, pas tant le scrutin législatif que le référendum sur la Constitution, qui fait bien l'unanimité contre lui et suscite un vaste mouvement de contestation. Car pour la société civile et l'opposition, rassemblées sous la bannière du Front National pour la Défense de la Constitution, cette consultation n'est guère plus qu'une manipulation, une manœuvre de Condé, élu en 2010 et 2015 pour briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en fin d'année, alors que la présente Constitution ne le lui permet pas. L'opposition manifeste depuis octobre et ses rassemblements sont violemment réprimés par les forces de l'ordre. À l'aune de cette atmosphère délétère, tout est à craindre pour la journée de dimanche. L'armée devrait se déployer en masse pour assurer la sécurité du vote, mais les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent. Le pays pourrait basculer dans un cycle de violence et de répression incontrôlable.
Manuela Figi. En Guinée-Bissau, Oumaru Sissoko Mbalo, le candidat donné vainqueur de la présidentielle par la commission électorale, s'est fait investir hier président à Bissau. Quelques diplomates étaient présents, mais aucun chef d'État. Il faut dire que son adversaire continue à contester les résultats de la présidentielle. Avec lui, le Premier ministre en exercice reconnu par la communauté internationale a dénoncé une tentative de coup d'État. Il ravage tout ce qui est vert après l'Afrique de l'Est. La République démocratique du Congo est touchée à son tour par les criquets pèlerins. Ils ont fait leur apparition dans la province de l'Ituri à la frontière avec le Soudan du Sud et l'Ouganda. C'est une première depuis 1944 selon la FAO. Et puis incident diplomatique entre Paris et Bamako. L'ambassadeur malien en France a accusé mercredi des soldats français de débordement dans des quartiers chauds de Bamako. Des déclarations très mal reçues par Paris qui les juge faux et inacceptables. L'ambassadeur vient d'être rappelé au Mali. En Inde, la situation semble se stabiliser à New Delhi, à la capitale, après 4 jours d'émeutes opposant extrémistes hindous et musulmans. On parle d'au moins 34 morts et de 330 blessés. Les affrontements ont éclaté dimanche lorsque des groupes hindous se sont opposés à une manifestation de musulmans contre une loi controversée adoptée en décembre dernier. Cette législation voulue par la majorité au pouvoir facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés du Bangladesh, de l'Afghanistan ou du Pakistan à la seule condition qu'ils ne soient pas musulmans. Une mesure jugée discriminatoire envers les 14% de musulmans du pays, à majorité hindoue. Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi a lancé un appel au calme, mais le discours du chef du gouvernement nationaliste ne semble pas convaincre. Les événements de New Delhi représentent un tournant après plus de 2 mois de manifestations pacifiques. C'est ce que nous explique Jean-Luc Racine, directeur émérite de recherche au CNRS.
C'est effectivement un tournant. Que s'est-il passé ? Dimanche dernier, des protestataires contre cette loi ont commencé à vouloir bloquer une artère. Et là, on a vu ce qu'on n'avait pas vraiment vu depuis décembre, des groupes de militants favorables à cette loi, encadrés avec des élus du BJP. Et on a eu là une phase nouvelle, effectivement, où les anti-protestataires sont passés à l'action. C'est la violence qui a répondu à la protestation. Et l'inaction de la police a choqué, mais il faut savoir qu'à New Delhi, c'est un cas particulier, la police ne dépend pas du gouvernement local, elle dépend du ministère de l'Intérieur du gouvernement central.
Est-ce que donc on assiste à une radicalisation des hindous aujourd'hui ?
Alors, on ne peut pas dire des hindous. Dans les manifestations contre cette loi, il y a des hindous et des musulmans. Là, une partie de la communauté musulmane est descendue dans la rue et l'a fait pacifiquement, et c'est très très rare, mais dans beaucoup de manifestations, les hindous, les chrétiens, tout le monde était là. Et dans les quartiers qui ont souffert de la violence ces derniers jours, des journalistes ont aussi trouvé des familles hindoues qui ont protégé leurs voisins musulmans. Ça va au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement les émeutes communautaires, où on voit deux communautés face à face. Mais en fait, ce n'est pas les hindous en tant que tels. Ce sont des mouvements militants radicaux hindous foncièrement anti-musulmans.
Est-ce que ces manifestations pourraient gagner d'autres villes ?
Éventuellement en Uttar Pradesh, qui est dirigé par un religieux hindou extrémiste. Mais pour le moment, tout est resté confiné dans le nord-est de Delhi. Si on reprend la stratégie du pouvoir, on a bien l'impression depuis des années qu'on laisse des marges de manœuvre aux ultras, mais on essaie d'éviter les grands massacres. Mais évidemment, ce qui est inquiétant, c'est à quel point ça illustre qu'il y a aujourd'hui dans le pays des minorités actives au sein du mouvement nationaliste hindou, qui ont été manifestes depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir avec un certain nombre de lynchages. Donc évidemment, tout le monde regarde ce qui s'est passé à Delhi de très près. Il est évidemment peu probable que tout cela ait été planifié d'en haut au moment même où Donald Trump était à New Delhi, même si en fait il est resté à New Delhi 24 heures.
Est-ce que le gouvernement indien pourrait faire marche arrière ?
C'est très peu probable. Narendra Modi est un tacticien et un stratège. Ce qui a été dit et répété clairement, c'est que cette loi, elle restera. C'est ce qui a été dit. En revanche, sur le registre national des citoyens, là, on a assez curieusement deux discours différents. Narendra Modi disant « on n'a pas encore pris de décision là-dessus », alors que son numéro 2, Amit Shah, lui affirmait, il y a encore quelques semaines, que le registre national des citoyens était bien dans l'horizon politique du gouvernement. Et comme il y aura de toute façon le recensement décennal indien en 2021, ça donnait un horizon pour combiner le recensement classique avec autre chose en demandant aux gens de prouver leur nationalité.
Interrogé par Adélaïde Patrignani, Jean-Luc Racine, directeur émérite de recherche au CNRS, était ce matin l'invité de la radio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre écoute attentive et surtout de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient tout à l'heure à 13h heure de Rome. Excellente journée à tous.